Dufour, qui elle fait vraiment de la fantaisie humoristique. Catherine, aucun des auteurs présents ne fait des ouvrages d'humour.
Et donc on a décidé que nous allons faire un débat pas drôle. Et notre ami et sur autre chose. Et notre ami Pierre Pével a proposé également que chacune de nos interventions commence par dans mon œuvre. Ce qui va nous permettre, je pense, de continuer à parler d'une voix monocorde et de manière extrêmement continue sans que quelqu'un ose me couper la parole, en faisant des pauses totalement inattendues à des moments où on ne sait vraiment pas ce que je vais dire. D'ailleurs, moi-même, je ne le sais pas non plus. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc, vous voilà prévenus. Et pour les autres, on va essayer d'être vachement intéressant. Vous allez voir.
Catherine, toujours pas là.
Bon, on va commencer
sans... elle. Alors le rôle du modérateur, c'est de présenter les participants, et puis après, si le choix des participants a été bien fait, il se tait jusqu'à la fin pour les remercier. Message est compris. Et je vais donc vous présenter nos invités. Jean-Philippe Jaworski, qui a obtenu ici l'an dernier pour son roman le prix Imaginal. Alors je poserai une question après parce que chose qui m'intrigue. C'est... Ensuite Pierre Pével qui a accumulé les prix, prix de l'imaginaire.
Qui est la collègue, qui est la collègue.
J'ai des doutes, je peux faire des échanges.
Et Jean-Claude Duniac, auteur de SF et de quelques nouvelles. Et voilà notre star féminine. Catherine Dufour, qui, elle, fait vraiment de la fantaisie humoristique. Enfin, faisait. Parce que depuis, elle est passée à des choses sérieuses. Mais au début, elle est bien délirée. Alors, on va commencer par Catherine. Hein, parce que beau sexe oblige. Alors, dans mon œuvre, hein, ça, il faut que
d'accord.
Tu tiennes... voilà. Et donc, Catherine, tu as commencé par des romans de fantaisie humoristique. Pourquoi ?
Dans mon œuvre, oui. Parce que je trouvais totalement inutile. J'ai toujours écrit, moi, depuis que j'ai réussi à tenir un bic à la main. Mais j'ai jamais vu l'utilité de détruire les forêts canadiennes pour encombrer les librairies qui ont vraiment pas besoin de ça. Jusqu'au jour où j'ai découvert Terry Pratchett. Je sais pas si vous connaissez, il a fait... une série qui est assez célèbre en Angleterre et qui commence à être pas mal connue ici. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire et que ça serve à quelque chose. Terry Pratchett, c'est un vrai antidépresseur et devrait être remboursé par la Sécu. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être utile que moi, j'écrive la même chose, mais en français. À la manière française, c'est-à-dire avec un tout petit peu plus de fesses dedans. En gros, ça revient à ça. Et j'ai décidé d'écrire une nouvelle dans ce genre-là. Et quand j'ai relevé le nez, c'était passé une semaine et j'avais écrit un livre qui s'appelait Blanche-Neige et Lance-Missile. Et qui a eu la poisse, puisque je l'ai proposé, je crois, au masque. La collection a fait faillite la semaine d'après. Il avait été accepté au Fleuve Noir. Toutes les collections d'imaginaire ont fermé dans le mois. Et finalement,
il y a
maintenant,
des gens assez courageux pour accepter ce
mais
livre.
Mais ils ont fait faillite, en fait, maintenant que j'y songe. Bon, voilà. Donc, j'ai mis à peu près 4 ans à le sortir, parce que c'est la fantaisie humoristique. Et pas forcément quelque chose que les Français apprécient particulièrement, ou du moins à l'époque. Moi, je m'étais beaucoup inspirée de Terry Pratchett, Monty Python, Sacré Graal. Donc c'était pire que de l'humour, c'était de l'absurde. Et ça, il fallait vraiment trouver un éditeur qui a envie de le sortir. Ça rentrait dans aucune case. Voilà. Et puis effectivement, ça, je pense que c'est le titre qui a bien plu, qui a fait marrer les gens. J'ai pu en sortir 3 autres derrière. Voilà. Dans mon œuvre, c'est ça.
Bien, Jean-Claude Duniac, dans votre œuvre.
Alors, dans mon hors d'œuvre, j'avais essentiellement des tomates. Pardon, excusez-moi. Moi, en fait, tout est de la faute de mon éditeur, parce que je suis quelqu'un de profondément pas drôle. Et à un moment donné, mon éditeur La Talente, hein, que je dénonce, parce que j'aime bien dénoncer mes petits camarades, parce qu'en plus d'être à tentative humoristique, je suis vil et fourbe, a dit « Tu fais des recueils de nouvelles, certes, mais il ne serait peut-être pas mauvais, pour épicer un peu ce que tu peux avoir de long et de chiant, de mettre de temps en temps des choses qui fassent un peu rire tes lecteurs, tu vois. » Et alors, j'ai dit « Mais j'en suis totalement incapable. » Il me dit « On le sait bien, mais c'est ça qui est drôle. » Et Par conséquent, poussé par le sens du devoir, le contrat que j'avais reçu et le fait que quand un éditeur vous parle, ben, vous êtes obligé de le faire. C'est pour ça que je suis devenu éditeur par la suite. J'ai commencé à écrire des histoires complètement pétées parce que j'avais une chose qui était très très drôle dans ma vie, c'est que je travaille dans une grande société qui s'appelle Airbus, dans laquelle c'est pas drôle tous les jours. Et par contre, si on commence à se laisser aller au marasme ambiant, ben ça finit comme France Télécom. Et donc on essaie toujours en permanence de se dire, il y a peut-être un côté marrant dans ce qui est en train de se produire. Et à force d'avoir cet état d'esprit, ne serait-ce que pour survivre à la dureté du quotidien du chef qui vous dit « Bon, tu sais ton truc, il faudra le refaire », eh ben, on arrive à trouver des façons complètement tordues de réenvisager la réalité dans laquelle on vit. Et donc, moi, j'ai repris mon univers d'Airbus, l'univers de Dilbert, hein, littéralement, pour ceux qui connaissent, et j'ai remplacé mes collègues par des trolls, des elfes, des nains, etc. Et ben, ça a fini par faire des trucs, enfin, que moi, je trouvais personnellement marrants. Et à ma grande surprise, mon éditeur les a trouvés marrants aussi.
Mais comme quoi, hein?
Ouais, oui, non, c'est...
L'humour. Mais moi, j'ai pas d'œuvre. Alors, Jean-Philippe Jaworski, dans votre œuvre?
Alors, dans mon œuvre, l'humour est parti d'un projet assez triste, en fait. D'un projet profondément déprimant. Quand j'ai commencé à écrire des nouvelles, je me suis dit, je vais faire quelque chose de pompeux. Je vais varier mes registres. Donc un exercice qui était un exercice purement scolaire, et dans les registres que je me suis imposé, il y avait un registre avec lequel je n'étais pas très familier, qui était le registre humoristique. Alors je rebondis sur ce que disait Catherine, le modèle pour moi au niveau de la fantaisie humoristique, c'était Pratchett. Donc je me suis amusé avec mes moyens imparfaits à essayer de parodier Pratchett dans une nouvelle qui s'appelle Jour de Guigne, où j'ai repris un certain nombre de procédés, de personnages, où je me suis inspiré de l'université invisible. Donc l'humour pour moi était en fait un hommage, hein, un pastiche ou une parodie. Pour ce qui est de gagner la guerre, où il y a beaucoup d'humour noir, alors là je rejoins ce que vient de dire Jean-Claude, qui dit que l'humour est une façon de survivre. Mon personnage principal est un personnage à qui il arrive des choses abominables, qui fait aussi des choses abominables.
Avec une grande tendresse.
Et je me suis posé la question, comment est-ce que ce type parvient à survivre, parvient à continuer plus ou moins à se regarder dans un miroir, en ayant sur la conscience ces choses inexcusables, atroces, en ayant eu aussi le portrait démoli, et il n'y a qu'un secret, il faut qu'il sublime ça par le rire. Donc l'humour noir n'est pas venu forcément spontanément dans le texte, c'était un mécanisme de défense du personnage qui lui permettait de surmonter toutes les épreuves qu'il traversait.
Pierre Pével, je suis un peu étonné de vous trouver là, mais bon, je...
Dans mon œuvre, probablement faute de travailler chez Airbus ou d'avoir la moindre empathie pour les forêts canadiennes, l'humour est finalement assez absent. J'en suis le premier désolé ici. Et je me rends bien compte que je peine à faire illusion. Il est des moments de solitude, celui-ci en est un. Je vous remercie de le partager avec moi. En gros, j'ignore absolument ce que je fais ici en ce moment.
Moi je le sais.
C'était marqué à mon programme, je suis discipliné et soumis sans doute, et donc me voilà.
Pas d'humour souterrain dans Willstatt ?
Pas à ma connaissance. Dans Willstatt, non. À la limite, dans Les Lames, il y a 2-3 personnages qui parfois font preuve d'humour, mais... Non, mais c'est peut-être les personnages plus que le livre, en fait. Enfin, c'est pas le ton du livre, en tout cas. Voilà, c'est... Non, franchement, je cherche. Revenez à moi un peu plus tard, j'aurais peut-être trouvé quelque chose.
On parlait de ton œuvre future, en fait, et celle-là.
Alors, dans mon œuvre à venir, il est possible que l'humour intervienne.
Si, si, tu y es, hein.
Oui, oui. Mais c'est donc le rire du troll, l'humour dans la fantasy. Je pense que celle des organisateurs ne fait aucun doute.
Bon, je pense que vous comprenez tous maintenant pourquoi on l'a invité, en fait. Hein. Parce que lui, au moins, il est capable de vous faire rire. Tandis que nous, on peine là misérablement avec nos espèces de fichus bouquins de merde. Tandis que lui, en plus, il n'écrit même pas dans notre genre. Et en plus, il vous fait tous marrer. C'est quand même lamentable.
Non, je suis un parfait escroc.
Alors Catherine, sûr, quand même, il faut essayer de donner un peu d'illusion. Quand on décide d'écrire dans la suite de Pratchett et qu'on utilise des personnages de contes de fées, Peau d'âne, Blanche-Neige, comment on arrive à subvertir ces archétypes?
Alors dans mon œuvre, en fait, j'avais plus un poil de sec parce que Pratchett est quand même à peu près un pur génie. Donc passer derrière, c'est quand même être sûr de se rater. Heureusement, en France, il n'est pas très connu. Voilà, donc j'ai pu faire Illusion un temps. Et j'ai écrit, donc le premier s'appelle Blanche-Neige et Lance-Missile, c'était juste pour me venger de la totalité des contes de fées qui m'ont empoisonné la vie, mais qui n'ont pas empoisonné que ma vie, qui ont empoisonné la vôtre aussi. Toutes celles et tous ceux parmi nous qui ont cru dans des choses comme, je sais pas, que les femmes étaient bonnes, douces et belles, que les hommes étaient vaillants et courageux, qu'un jour il y aurait un prince charmant sur un cheval blanc qui arriverait, ou qu'il y avait une belle princesse qui vous attendait quelque part, et qu'en plus vous vivriez jusqu'à 100 ans en ayant beaucoup d'enfants et heureux, quand on sait ce que c'est que d'avoir des gosses. Voilà, et ben tout ça, c'est la faute des contes de fées. C'est eux qui nous ont fait croire ça et qui ont fait qu'on a attaqué la dure tartine de la vie avec les dents de lait du lecteur de contes de fées. Voilà. Donc j'ai décidé de me venger et de récupérer les princesses de contes de fées juste après la fin, en fait. Donc la vraie vie les rattrape, c'est-à-dire d'abord que le prince charmant de La Belle au bois dormant la quitte pour Cendrillon, et que Cendrillon devient lesbienne avec Peau d'âne, je crois. Enfin bon, la vraie vie, c'est-à-dire que rien n'est simple, tout se complique, et que le moment où on rencontre sa moitié, c'est pas le moment où tout se termine, mais où tout commence. Et surtout les emmerdements. Et ça m'a fait un bien fou, et je me suis aperçue que j'étais pas la seule à trouver ces contes de fées exaspérants. Et j'avais vu ça une fois, c'était une BD, parce que j'ai lu, vous avez tous lu comme moi, Titi et Rominé. Rominé court après Titi, il ne rattrape jamais Titi. Et il y a un auteur de BD, je ne sais pas si c'est Larsenet ou Goussens, qui a fait une planche décisive où il y a Rominé qui chope Titi, qui casse le cou de Titi, qui plume Titi, qui désosse Titi, qui en fait de la purée. Et à la fin, on sent un soulagement immense de à la fois de Rominé, peut-être même de Titi, de tous les lecteurs, pour une fois Rominé enfin rattrapé Titi. Et Blanche-Neige et les lance-missiles m'a fait cet effet-là, un effet cathartique, et j'espère que ça a fait le même à mes lecteurs et notamment mes lectrices. Et puis dans mon œuvre, il faut que je parle des trois autres.
Ah bah oui, hein.
Ah bon, d'accord.
Bah, t'es la seule à avoir écrit des romans d'horreur. Jean-Claude, quelques nouvelles. Jean-Philippe, un peu d'humour noir pour sauver son personnage principal.
Et Pierre ne sait vraiment pas.
On a toutes les nuances, quoi.
Donc, le bouquin suivant, c'est... Alors, je me suis attaquée au deuxième monstre des temps modernes. Donc, ça se passe sur Internet. Ça essaye d'expliquer... D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui ont le temps, contrairement à vous, de glandouiller sur des forums et de vous envoyer des mails stupides? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a... ce qui explique pourquoi votre impression ne démarre jamais, etc. En fait, c'est parce que tous les morts ont été numérisés, ils sont sur Internet. C'est eux qui bousillent tout. Le troisième tome, là, je me suis vengée de Merlin l'Enchanteur et leurs histoires de fées dans les bois. Et le quatrième tome, là, je me suis...
Est-ce que tu trouves que le destin de Merlin l'Enchanteur, il est si brillant que ça? Il se fait pigeonner par une magicienne et elle l'enferme à vie dans une grotte?
Oui, mais enfin, ils sont tous beaux, jeunes, éternellement beaux et jeunes, et si, c'est très énervant. Donc j'en ai fait un archange émasculé qui n'arrive même pas à coucher avec la fée Vivienne. Et le quatrième tome, là je me suis vengée du Seigneur des Anneaux, parce que comme beaucoup de gens de la fantasy, j'ai lu le Seigneur des Anneaux, je l'ai relu, j'ai joué à Donjons et Dragons, j'ai même lu le Silmarillion, bref, j'ai participé à la faculté des études elfiques. Je me suis tapé tout le dictionnaire franco-elfique et j'ai transformé en elfo-français, à moins que ce soit l'inverse. Bref, j'ai beaucoup donné de ma personne quand j'étais petite. Et ensuite, mes enfants qui ont pris le relais, j'étais obligée de regarder Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson à peu près 15 fois chaque épisode. Donc tous ceux qui ont eu des gamins et qui ont regardé 98 fois Kirikou et 76 fois Shrek 1 me comprendront. Donc j'ai fini par prendre des notes en regardant Peter Jackson. Et il y a un truc qui est très particulier, c'est que à chaque fois dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, voilà, c'est à peu près ça que je veux dire, qui se font la bouffe, il leur tombe une catastrophe sur le nez. Alors Mary et Pippin se font du bacon, à ce moment-là il y a Nazgûl qui leur tombe dessus. À un moment il y a Frodon et Sam qui se font un lièvre dans une marmite, à ce moment-là il y a les olifants qui leur tombent dessus, et ils s'en vont en laissant tout en plan. Et je me suis dit, mais finalement il y aurait moyen de visiter la Terre du Milieu en les suivant et en récupérant tous les soirs le repas qu'ils n'ont pas réussi à manger. Et donc j'ai une paire de fées qui fait ça et qui se fait toute la Terre du Milieu en suivant Frodon et ça, mais en mangeant tout ce qu'ils laissent derrière eux. Voilà. Voilà. Vous verrez dans quelques années. Alors pour les films que les enfants aiment et qui sont pas trop insupportables pour les parents, au bout de la 96e fois, j'ai la liste si vous voulez. Voilà, c'est donc mes inspirations viennent finalement de vieilles haines cuites et recuites que j'évacue dans mes livres, effectivement, sous, comme le dit Philippe Jaworski, c'est quelquefois il reste plus que l'humour pour arriver à supporter la réalité. Voilà.
Mais la politesse de l'humour.
Du désespoir.
Politesse du désespoir, disait Chris Marker. Alors, Jean-Philippe Jaworski, l'humour noir, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à manipuler. Je sais bien qu'André Breton en a fait une anthologie, mais à la lire, ça ne me semble pas aussi simple que ça à utiliser.
Je ne sais pas si c'est compliqué à utiliser. C'est peut-être compliqué à recevoir, mais c'est très jouissif à écrire. Oui, c'est une façon d'évacuer toutes les frustrations, de régler ses comptes avec un certain nombre de choses. Il y a des pages extrêmement méchantes dans Gagner la guerre que j'ai écrites avec délectation. Il y a une page qui est la parodie, qui est la satire des enterrements, où j'ai sans doute réglé mes comptes avec un certain nombre de funérailles auxquelles j'ai assisté. Donc dans l'humour noir, il y a une part de méchanceté personnelle que j'assume.
Élevé à Harakiri ?
Oh non, peut-être pas. Peut-être pas, j'ai pas ce génie. Et puis mal dissimulé derrière le masque du personnage, quoi, qui a un porte-parole bien pratique pour sortir un certain nombre de choses. C'est un vrai plaisir en fait à manipuler. Je dois être un petit peu perverti. Moi, ça me fait beaucoup rire, que ce soit l'humour noir que font les autres ou celui que je pratique. Et donc, c'est avant tout un plaisir égoïste.
Oui, il faudra nous réfléchir à une histoire d'humour noir sur laquelle on terminera peut-être la séance pour avoir un exemple. Jean-Claude, il y avait différentes formes d'humour alors.
Mais moi, c'est pas, je me pose des questions. D'abord, dans mon œuvre, je me pose des questions extrêmement perverses. Le truc, en fait, c'est qu'il y a toujours un moment donné où on prend un concept de la fantasy ultra classique, le machin bétonné qui reste là, et on se dit qu'est-ce qui se passe si je le tords un peu ? Vous voyez, vous avez une citrouille qui donne un magnifique carrosse, ça tout le monde connaît. Maintenant la question c'est, j'ai une courgette, ça va faire un machin sport un petit peu. Et puis à la limite je me dis, tiens, est-ce qu'on peut imaginer des légumes transgéniques qui seraient justement fait pousser dans les jardins avec pour justement faire des véhicules encore plus utilitaires, si je puis dire. On peut s'amuser à ce genre de choses. On peut réfléchir aussi de temps en temps à complètement décaler l'endroit où on est. Moi j'adore tirer le tapis, j'adore décaler, j'adore le truc qui fout complètement la merde. Je vous donne un exemple. J'écris une scène où il y a le héros, le troll, accompagné de son fidèle séide, enfin dans le truc, vous l'avez dans l'anthologie là. Le type il est dans les marais, alors il est en train de chercher l'antre du magicien noir, enfin on est vraiment dans le machin classique, et il est en train de marcher dans les marais, ça fait un bruit gluant à chaque fois, il y a une souche un petit peu à l'horizon d'où surgit une espèce de serpent qui marche à la surface au milieu des rares fondrières traîtresses, et surgit du fond une nymphe magnifique moitié nue, et il lui demande son chemin, et il l'avance au milieu donc du truc alors que les orages grondent, etc. Et elle le regarde, elle lui dit, c'est plus court par ici mais c'est plus joli par là. Et ça, pour moi, c'est l'envie que j'ai. C'est l'envie de me dire, je prends une véritable situation dans laquelle on est le héros qui cherche le truc. Eh ben non. Exemple, on est dans un endroit où on va combattre le magicien noir. Ben, c'est typiquement l'endroit où il y a un stand de cartes postales. Parce que la seule façon qu'on a de prouver qu'on a fait ça d'une certaine façon, c'est d'envoyer la carte postale. Et mon héros, il a vécu quelque chose que j'ai vécu moi-même à Airbus, c'est-à-dire qu'il a fait sa quête, il a accompli sa quête, il a été vaincre le magicien noir, les armées dont il a défait les trucs, et il a ramené le spectre de la mort ultime arraché aux enfers. Bon, et simplement on lui dit d'accord, mais t'as oublié de prendre les justificatifs financiers tout le long de ton trajet, donc t'y retournes et tu nous refais tout ça parce que sinon ta mission est pas complète. Et donc le type il repart. Le problème c'est que l'auberge où il avait dormi, ben, étant donné qu'il y a eu une bagarre, elle a brûlé. Donc il se retrouve là et on lui dit ben, on veut bien vous faire une facture, mais on est les nouveaux propriétaires, donc à la limite ça va pas le faire quoi. Et donc c'est ce genre de problème là qu'il a, et ça croyez-moi dans Airbus on a ce genre de problème là. Donc le transformer en me mettant moi à la place avec une espèce de troll absolument gigantesque et complètement boursouflé, ce qui est pas tant de la science-fiction que ça d'ailleurs, c'est un truc dont on se dit c'est amusant à faire, et puis on se venge parce que le chef, l'enfoiré de putain de connard de chef qui vous envoie refaire le truc et chercher le papier, celui-là ben, à la fin il, à mon avis, va mourir dans d'atroces souffrances, sinon c'est pas drôle. Et puis on peut aussi se venger vis-à-vis du collègue, c'est-à-dire le gars qui vous brandit la malédiction en disant tu vas voir, je vais te le faire payer, et il lui colle un stagiaire. Enfin, je veux dire, il faut imaginer quelque chose comme ça. Et ça c'est un véritable bonheur, vous voyez ce que je veux dire. On peut faire ça, on peut se venger. Alors après, bon, évidemment, vous êtes obligé de souffrir nos élucubrations, mais nous, en tout cas, qu'est-ce que c'est bien.
Catherine, justement, dans le dernier roman que tu as fait avec tes fées, il y a un des thèmes de la quête, une structure classique de la quête sur lequel tu as fait quelques variations extrêmement brillantes.
Alors ça c'est gentil, dis donc. Non, mais c'est même pas le thème de la quête, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est quand même la quête ultime, et c'est le hors-champ de la quête, c'est-à-dire tout ce qui retombe derrière la quête. On se rend compte que les orques sont pas des monstres affreux, mais qu'ils sont hyper mal vus parce qu'ils ont une sale gueule, c'est de la discrimination. On se rend compte que les hobbits de Hobbitobourg sont quand même d'affreux nains nationalistes et sexistes en plus. Donc c'est plus le hors-champ qu'un décalque de la quête. Où effectivement, si on... Ah oui, c'est aussi pour me venger du Seigneur des Anneaux, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est quand même abominablement... Enfin, tous les problèmes viennent de gens basanés qui viennent du Sud, quoi. Faut le dire. Non, c'est lamentable, quoi. Il était temps de s'en moquer, effectivement. De qui est-ce que je me moque? Oui, effectivement, des elfes. Les elfes qui sont toutes et tous absolument sublimes et extrêmement ennuyeux, il faut le dire. Oui, enfin, c'est le plaisir. C'est le plaisir de brûler ce qu'on a adoré. Et j'ai eu plus de problèmes avec le premier tome, où il y a des gens vraiment qui sont venus me voir en me disant « Comment osez-vous parler comme ça de Blanche-Neige, qui est une jeune fille très pure ?» Et qu'effectivement, moi, dans mon œuvre, devient un abominable dictateur. Et j'ai eu davantage de problèmes qu'avec les puristes du Seigneur des Anneaux. Voilà. Klotzko n'est pas venu me faire la peau.
Comme quoi, hein.
Ah oui,
la Pavelle, toujours en recherche.
Ce mode recherche.
C'est dans mon œuvre.
Dans mon œuvre, pour l'instant, j'en suis à une grave introspection.
Bien, on va tâcher de continuer en espérant que vous trouverez.
Mais c'est une punition ou quelque chose? Non, t'as fait quelque chose qu'il fallait pas?
Non, en fait, tout est de ma faute. C'est vrai, en plus, Pierre, tu vas m'en vouloir, mais je l'annonce. Je peux vous faire mon coming out. Tout est de ma faute. Et c'est pas des blagues. C'est Stéphanie qui m'a appelé alors que j'étais en train de marcher à Pérès dans les montagnes là-bas, et qui me dit je suis emmerdé parce que pour le truc sur la fantasy humoristique, vous êtes que trois, parce que encore vous êtes marginalement drôle, mais bon, j'étais obligé de vous rassembler. Qu'est-ce que tu pourrais me coller et me suggérer comme auteur? Et j'ai dit écoute, il y a Pierre Pével, il a jamais rien écrit d'humoristique, mais c'est un mec assez drôle, il trouvera toujours quelque chose à dire. Et je pense que tout est de ma faute, tout est devenu là. Donc je pense que Pierre, tu vas cesser d'être un ami, et qu'à partir de maintenant, donc le problème va être réglé, si je puis dire. Mais on
peut-être bien cesser d'être drôle même si on cherche trop.
Voilà. Donc vous voyez, c'est en fait un petit peu comme ça qu'on fait de la fantasy humoristique. On prend quelque chose ou quelqu'un qui n'a strictement rien à faire là, et on le met dans un truc. Et en général, c'est censé faire marrer les gens. Bon, alors après, il y a le problème du talent de l'auteur. Bon, dans le cas particulier de Pierre, il y arrive. Mais après, c'est un petit peu difficile de se mettre en complet décalage, de prendre un objet, de prendre une parodie, de prendre un truc et de se dire, si on le tire réellement de son contexte et qu'on l'examine, eh ben, est-ce que ça va faire réellement marrer ou pas?
Mais on n'est pas que trois à faire de la fantaisie humoristique quand même, si?
Gudule qui est dans le secteur.
Gudule, oui, qui fait de la fantaisie humoristique.
Ah oui, on n'est
pas là, Gudule.
Oui, non, elle n'est pas là.
Elle n'est pas là.
Non, non, on l'a appelé sur des choses sérieuses, Gudule. Ouais.
Gudule, elle a un débat sur les mousquetaires en ce moment.
Vous voyez ce que je vous disais, on a eu raison de l'inviter.
Alors, il y a bien sûr l'humour littéraire, mais il y a aussi l'humour graphique. Et je me souviens avoir vu dans Mad un dessin remarquable de Don Martin, justement un détournement de la fantaisie. Il y a une belle princesse qui marche et qui avise sur le bord d'une mare un affreux crapaud. Et alors, il y a une bulle. On voit qu'elle pense que si elle embrasse le crapaud, il va se transformer en beau prince charmant. Elle embrasse le crapaud et elle se transforme en crapaud. Quand même, un beau détournement aussi.
Il y a aussi un dessin qui est probablement à l'origine de toute la fantaisie humoristique du monde, qui est un dessin de Chaz Adams, le monsieur qui a fait la famille Adams, qui montre un prince et sa princesse qui sont chez le conseiller conjugal, mais du Moyen-Âge. Et donc il y a you conseiller conjugal en anglais, et ils sont là, ils se tiennent la main, et ils disent « We don't live happily ever after », c'est-à-dire « On ne vit pas heureux ». Et le type est en train de se gratter la tête, l'air de dire « Mais qu'est-ce qui arrive ?» Je veux dire, tout est complètement perturbé. Et à un moment donné, c'est ça, on prend l'hypothèse de base, celle à laquelle on ne change rien, le héros va vaincre à la fin, etc. Ben non. Et on dit, ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Et là, on commence à se trouver devant un champ infini de possibles et se dire, c'est un peu vertigineux parce qu'à partir du moment où on a tout cassé, évidemment, on est dans les trous, on est dans les failles. On se dit, qu'est-ce qui peut arriver à la quête, par exemple, de Frodon ? Ça peut être vachement marrant. Mais pourquoi pas imaginer une histoire dans laquelle Frodon débarquerait, il aurait son anneau, il dit, attends, je prends 5 minutes, il s'arrange, il se téléporte au truc, il jette le machin, il revient en disant, dans le fond, on pourrait la faire, cette quête, mais bon, les mains dans les poches parce que la balade est quand même sympa. Et à ce moment-là, on referait le Seigneur des Anneaux, sauf qu'il n'aurait pas l'anneau. Et il se poserait la question de se dire, tiens, ben, on va se balader, on va s'arrêter ici, on va s'arrêter là. Et puis, il n'y aurait plus aucun enjeu. Et on se dit, tiens, où est-ce qu'on est ? Et non seulement il n'y a plus de bouquins, il n'y a plus de trucs, mais à ce moment-là, on peut faire complètement autre chose. Et le but, c'est à un moment donné de faire complètement autre chose.
Est-ce que non, ça te donne des idées, Pierre ?
Guerre.
Non, mais je crois que la fantaisie humoristique, c'est comme tout humour, c'est essentiellement adulte ou passage à la Z, j'adulte, puisque ça consiste à prendre. Fantaisie, c'est le traitement de grands archétypes. Donc, logiquement, justement, ça ne prête pas du tout à rire ni à sourire. Et désacraliser les archétypes, c'est vraiment caractéristique du passage à l'âge adulte. C'est pour ça que la fantaisie humoristique, vous en trouvez beaucoup dans tout ce qui touche aux adolescents, et notamment dans L'Enfeuse de Troie. Moi, j'avais fait une nouvelle spéciale fantaisie humoristique pour L'Enfeuse de Troie, où ils ont désacralisé tout ce qui a trait à la fantaisie. Il y a des petits trolls absolument abominables, il y a des chevaliers qui pètent et qui rotent, et c'est effectivement un grand plaisir de chamboule tout. Donc on doit être, enfin moi je suis un peu bloqué probablement à l'adolescence, ça doit être merci. Ouais.
Mais il y a d'autres auteurs de fantaisie humoristique en dehors de Terry Pratchett. Et il y a un auteur américain qui s'appelle Pierce Anthony, qui a fait un cycle de fantaisie humoristique qui s'appelle Xanthe. Alors l'idée, c'est une idée assez remarquable. Il y a un pays dans lequel tout le monde a des pouvoirs magiques. Mais des pouvoirs magiques très différents. Par exemple, il y a un type, il a le pouvoir de changer la couleur de son urine quand il le veut. Il y en a un autre, il peut élever un mur invisible quand il le veut. Alors évidemment, des fois, ça peut servir. Changer la couleur de l'urine, ça ne sert pas à grand-chose. Puis il y en a qui ont d'autres pouvoirs magiques plus importants. Et alors, cet auteur, Pierce Anthony, a parsemé son œuvre de calembours, donc ce qui fait qu'il y a un humour verbal. Et comme ça plaisait beaucoup aux lecteurs, ils ont commencé à lui envoyer des calembours. Et puis au 8e tome, il y a, vous le trouverez d'ailleurs, je crois que Brajlon les réédite, ça a été publié en pocket. Et au 8e tome, il a fait un avis au lecteur. Alors, il sélectionnait des calembours de lecteurs, hein, la fiente de l'esprit qui vole, comme disait Victor Hugo, qui n'hésite pas à lui en faire des calembours aussi. Napoléon le Petit, c'est quand même pas mal. Il prenait des calembours de lecteurs. Puis au 8e tome, il a déclaré forfait en disant « on n'en voyait plus parce que je suis submergé ». C'est un cycle de fantaisie humoristique assez intéressant et qui a un fonctionnement différent de celui de Pratchett. Hein. Pratchett, c'est la satire. Pratchett, tout de même, il utilise toutes les armes de l'humour. Hein. Le non-sens, la satire, l'humour noir, tout y passe. Un des personnages principaux de Pratchett, c'est la mort.
Et c'est la mort, mais c'est un garçon, ouais.
Ouais. Et elle se met en grève, donc il faut remplacer.
Faut remplacer la mort. Ouais. Alors Pratchett, c'est particulier parce qu'en tout cas en France, il bénéficie surtout d'un traducteur génial nommé Couton. Parce que Pratchett, oui, il pratique beaucoup l'absurde, le non-sens, mais aussi le calembour, donc à traduire de l'anglais au français. Non seulement il faut savoir le faire, mais surtout déjà il faut le repérer dans le texte. Donc moi, j'ai jamais lu Pratchett en VO, il paraît que c'est génial, mais en français, c'est assez génial. Et alors le problème de Pratchett, il le dit, c'est que. Il a notamment imaginé une vieille fée qui est une bonne vivante et qui, dès qu'elle a bu un coup de trop, elle chante des chansons paillardes. Donc elle a inventé le bourdon d'un mage à un nœud au bout, avec des paroles. Il est très grand, il pèse 3 livres avec l'eau, etc. Et l'autre, c'est le hérisson ne se fait jamais maître. Voilà. Et,
on peut y arriver en grimpant sur un
oui, voilà. Et l'escargot si on va très lentement, mais le hérisson lui ne se fait jamais mettre. Et il a reçu 800 versions de la part de ses lecteurs. Et à un moment il était obligé de dire dans le livre suivant, non mais arrêtez, stop.
Oui, il y a des gens qui ont enregistré, il y a un CD qui est un collecteur, mais qui a un CD avec les différentes versions musicales des chansons de Pratchett. C'est clair. Mais il y a quelque chose aussi quand l'univers devient humoristique, donc on vous dit grosso modo vous pouvez jouer, parce que c'est ça aussi la caractéristique de l'univers de fantasy humoristique, c'est à vous de vous l'approprier et de faire vos propres vannes avec. Et c'est vrai qu'on reçoit des commentaires, des suggestions, ou des gens qui se l'approprient, qui fabriquent leurs cartes, qui fabriquent leur propre jeu pour jouer avec ça, quoi. Moi, ça m'arrive personnellement d'avoir des collègues d'Airbus, c'est pas des blagues, qui viennent me voir en disant, oh, il m'arrive une histoire, ça pourrait te faire une histoire de troll, quoi. En général, c'est nul, mais c'est vrai que, bon, ou alors ça m'intéresse pas, ou je serais obligé de partager les royalties, enfin, c'est quand même embêtant, mais c'est vrai qu'ils jouent à ça, quoi.
Mais il y a Noël Buck aussi qui a un succès fou et où enfin il y a une véritable participation. Alors en plus, oui, c'est sûr qu'ils font de la musique, ils font carrément un groupe de rock, ils montent sur scène, ça aide pour participer. Mais en général, c'est ça qui est sympa, c'est que ça entraîne tout le monde et chacun y met son grain d'humour.
Et le fait que ce soit récupéré par le public, le fait aussi qu'une partie de l'humour repose sur la parodie, c'est un signe de la vitalité de la fantasy, en fait. À partir du moment où on commence à faire rire sur des codes, où le public rebondit, c'est-à-dire comprend quels sont les codes et comment ils ont été détournés, ça signifie en fait qu'il s'agit déjà d'une culture de masse. Parce que la fantaisie humoristique ne fonctionnera pas si le public se réduit à quelques personnes qui seules seront capables de comprendre les codes qui sont détournés.
Alors ça, c'est le chaudron blanc. Ah, je vais pouvoir la ramener parce que j'ai fait mon mémoire de DSS là-dessus. C'était sur est-ce que l'humour de Pratchett peut traverser la Manche, est-il soluble dans la Manche? Comment est-ce qu'on fait pour transporter l'humour d'un bord à l'autre de la Manche? Je ne vais pas vous le refaire parce que c'est très long et puis c'est super ennuyeux. Mais si vous voulez être compris, il faut piocher dans le chaudron blanc, le white cauldron, c'est-à-dire les références comprises par tout le monde. Donc vous pouvez parler du Seigneur des Anneaux, vous pouvez parler de la Vénus de Milo, vous pouvez parler de la Joconde. Par contre, essayez pas d'aller en Angleterre et de faire rire tout le monde avec Astérix le Gaulois. Et de même, il y a certains bouquins de Pratchett qui ont été franchement changés par son traducteur Couton, parce qu'il parlait d'un conte de fées qui est aussi connu chez nous que Le Petit Chaperon Rouge, sauf que nous, on ne le connaît pas du tout. Il doit s'appeler Le Lézard et les deux escargots, et nous, on n'en a jamais entendu parler. Et donc, pour arriver à traduire le livre de Pratchett, il ne s'agit pas de traduire mot à mot, ni même de traduire les blagues. Il a fallu carrément qu'il remanie tout le livre pour que Le Lézard et les deux petits escargots se transforment en Le Petit Chaperon Rouge. Et c'est un travail assez remarquable, quoi.
Oui, mais pour avoir interviewé Pratchett, effectivement, il disait si vous parlez des problèmes avec votre belle-mère, vous arriverez à faire rire partout dans le monde. Et il disait, il y a des archétypes de la situation, qui est la situation à la fois emmerdante et qu'on a envie de traiter par l'humour, qu'on peut trimballer avec soi, c'est sûr. Les problèmes de grande entreprise, quand on écrit une histoire qui se passe, qui est une parodie de ce qui se passe dans une grande entreprise, on tombe toujours sur des gens qui vous disent, ah oui, mais vous avez travaillé à telle boîte, qui est la leur, et à qui on dit, non, pas du tout, moi j'ai travaillé dans une autre boîte, c'est pas, non, c'est pas possible, parce que c'est vraiment comme chez moi. Ben oui, mais c'est comme chez moi, chez vous aussi. Et là, on se rend compte qu'on a travaillé sur un archétype. Et quand on a ça, c'est bien. Le mousquetaire de notre ami Pierre Pével, pour le renvoyer, c'est aussi un archétype. Le jour où il n'aura capable de nous créer un mousquetaire drôle, il y a eu des films, il y a un film qui s'appelait Les Trois Mousquetaires, oui, avec L'apostrophe et Trois de Max Linder, où en particulier, le père sortait l'épée qui avait servi, enfin, qui était la sienne pour la donner à son fils, et le fils était agenouillé, et l'épée servait de broche, et donc il lui tendait l'épée, et le fils mangeait le reste de viande qu'il y avait sur l'épée. Enfin, c'était des choses comme ça, et on peut jouer avec ce genre de truc.
On peut.
Oui, Max Linder, il y a aussi les Charlots Mousquetaires, donc c'est pas toujours une bonne idée non plus.
Ça a vachement vieilli, les Charlots. Je dis, ça a vachement vieilli, les Charlots.
Ah, oui, c'était déjà vieux, en fait, je pense. Sauf
ouais. Ouais, les moins de 50 ans n'y comprennent rien, là.
On n'est pas dans le chaudron blanc, là, on est carrément dans les vieilles poudres.
Bon, si vous voulez de l'humour noir, il n'est que moins 20.
Ouais, mais là, on sent derrière que ça se prépare.
Oh, ta montre fonctionne pas, Pierre. Alors, l'humour. Ouais, j'ai pas révisé mon Bergson avant de venir. Non, il y a d'autres médias qui ont utilisé l'humour dans... Jean-Claude parlait de Chaz Adams tout à l'heure. Il y a eu, comme vous le savez, une série. Bon, c'est plutôt les archétypes de l'horreur, hein, puisqu'il y a un faux Frankenstein, il y a un espèce de vampire, il y a une maison qui avale tout. Mais il y a eu une série télé, et puis derrière la série télé, il y a eu une série de films. Et alors là, il y a des détournements formidables quand on veut punir les enfants de la famille Adams, on les attache dans un bungalow et on leur passe l'intégrale des œuvres de Walt Disney.
Et la petite maison dans la prairie aussi.
La petite maison dans la prairie, ouais, ouais, j'imagine. Non, mais dans la fantaisie humoristique, là, pour moi, la base même, c'est tous les Monty Python. Et l'origine de tout, c'est Douglas Adams, le guide du routard galactique. Ouais. On va me dire, ouais, c'est de la SF, ouais, mais non. C'est une grande fresque épique. Vous connaissez, si vous n'avez pas lu, Le Guide du Retard Galactique, c'est là qu'il y a la technique sur comment voler. Pour se voler, il suffit de se jeter par terre et de se débrouiller pour rater le sol. Et 20 ans après, ça me fait toujours autant marrer, il fallait la trouver celle-là. Il n'y a qu'un anglais pour trouver ça, quoi. C'est comme Sacré Graal, je l'ai re-regardé dernièrement. C'est d'une nullité abyssale. Il n'y a vraiment que des anglais pour oser ça, quoi. Ils sont géniaux.
Et ça a été considéré comme, par un sondage anglais, comme le meilleur film anglais de ces 50 dernières années, quand même.
Ah ouais, mais au moins, quoi. Quoi, mais par l'autre côté, en fait.
Mais justement, le travail, c'est de prendre une espèce d'énorme corpus de mythes. Là, on prend le mythe arthurien. On peut refaire une parodie totalement humoristique de, je sais pas, par exemple, d'Homère. Bon, ils l'ont fait avec trois, mais ils l'ont pas fait exprès. Mais on peut aussi le faire en le faisant, je dirais, volontairement, d'une certaine façon. Et se dit, tiens, là, un énorme chantier. On prend Ulysse, on prend Hector, on prend toute la bande, on prend Priam. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, entre Virgile, entre Homère, etc. On a cette espèce d'énorme corpus et on peut jouer avec. Et là, on a une espèce de richesse, parce que on dynamite le truc de l'intérieur. Alors évidemment, faut pas se planter, mais au moins tout nous est permis. C'est ça qui est extraordinaire, tout nous est permis. Et les Anglais, en particulier, vraiment les Anglais, pas les Anglo-Saxons, mais les Anglais eux-mêmes, sont très très forts pour ça, parce qu'ils ont une quantité infernale d'auteurs, y compris des auteurs de littérature générale, je pense à Tom Sharp quand même, qui sont des gens qui sont capables de prendre une situation, de la pousser jusqu'au plus extrême mauvais goût, et vous vous dites, waouh. Et à partir de là, il s'est à peine échauffé, et il commence à se mettre en jambes, et là vous basculez dans le n'importe quoi, est-ce qu'il n'y a même pas de mots pour ça. Je veux dire, il y a des scènes de Tom Sharp. Je ne sais pas si vous avez lu Tom Sharp. Alors, vous n'avez jamais lu, par exemple, un bouquin qui s'appelle Porter House. Bon, ben, entre autres choses, dans Porter House, ça se passe dans un collège à Oxford. Hein. Vous avez un type qui est là, qui est un jeune professeur, et qui, grosso modo, découvre que sa femme de ménage lui fait des avances. Alors, en plus, c'est un jeune professeur qui est loin de chez lui, qui est dans une chambre toute fraîche, etc. Il est malheureux, etc. Et donc, il a peur de céder aux avances de sa femme de ménage et il décide, première chose, d'aller se confesser au chapelain. Alors déjà, premier problème, le chapelain, il est sourd. Donc il faut se confesser avec un porte-voix, ce qui nuit un petit peu à la, je dirais, à la discrétion de la confession. Bref, il réussit, suite à un dialogue totalement hilarant, à se faire plus ou moins comprendre du chapelain, qui lui dit, dans tous les cas, mon fils, allez acheter des préservatifs. Bon. Ok, alors là, il y a 30 pages sur comment se procurer les préservatifs à Oxford qui valent véritablement le pesant de cacahuètes. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve en possession d'une caisse de préservatifs, genre 40 boîtes de 100, quoi. Et là, il se dit, si la femme de ménage les trouve, elle va se rendre compte que j'éprouve un quelconque sentiment pour elle, et donc il faut que je trouve un moyen de m'en débarrasser. Alors, il essaie de s'en débarrasser avec des ciseaux, mais ça fait scruit qu'il n'y arrive pas. Il essaie de les jeter dans les toilettes, mais ça bouche les toilettes. Et la seule solution qu'il trouve, c'est de les remplir avec du gaz et de les lâcher dans la cheminée où ça fait des espèces de petits ballons, sauf que dehors il fait froid, donc les ballons retombent et les gens qui rentrent complètement beurrés dans la neige marchent sur des trucs qui font squeak squeak, qui sont persuadés qu'il s'agit d'une chute de grenouille. Et là, vous n'êtes qu'au début de l'histoire, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut continuer encore pendant très très longtemps. Et là, quand on lit ce genre de choses, qu'on est anglais, ben on attaque le Seigneur des Anneaux, et alors là il n'y a pas de quartier, quoi. Je veux dire, ça peut faire rigoureusement n'importe quoi, ça peut faire les Monty Python clairement. Et nous, on aimerait, alors qu'on est, vous savez, on est des gens cartésiens, on a je pense donc je suis, etc. Moi je pense donc je suis complètement con, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Et je me dis, comment est-ce que je peux prendre un truc qui serait typiquement un truc bien français, genre les mousquetaires ou Napoléon, et attaquer, en faire une histoire complètement starbée, mais au sens anglais, poussant la chose jusqu'au moment donné où ça cesse même d'être absurde pour devenir tout à fait autre chose. Moi l'idée m'amuse beaucoup, la seule chose que je crains, c'est de ne pas être capable de vous faire rire, vous. Mais enfin, moi, en tout cas, ça m'amuse.
Il y a quand même un auteur de fantasy, ou proche de la fantasy, dont on n'a pas parlé, parce qu'il représente quelque chose d'un peu particulier, qui est un auteur anglais, d'ailleurs, toujours, Jasper Ford. Oh oui. Alors, Jean-Claude, parle-nous-en un peu.
Jasper Ford, oui, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin véritablement, on peut appeler ça de la science-fiction, qui se passe dans un univers extraordinaire où la littérature est le sport national. C'est-à-dire, la littérature est une chose tellement formidable que vous avez des distributeurs de littérature au coin de rue. Des fois que vous avez une petite faim, vous pouvez acheter une douzaine de verres ou, je sais pas, ou une scène particulièrement cruciale. Vous avez au lieu d'avoir des mormons, vous avez des gens qui viennent sonner chez vous pour vous dire, tu sais qu'en fait, Shakespeare, c'était Francis Bacon, et à qui, et vous avez d'autres qui passent après pour essayer de vous dire, non, Shakespeare, c'était vraiment Shakespeare. Et vous avez quelqu'un qui est capable, avec une machine, de pénétrer dans les livres. Pour en extraire des personnages. Ouais, c'est vraiment le truc extraordinaire. Et d'ailleurs, on sait d'où vient En attendant Godot. On sait pourquoi Godot, ouais, dans le tome 3, absolument, pourquoi Godot, ouais, n'est pas arrivé. Et je veux dire, il donne comme ça toutes les explications de la littérature, parce qu'il y a des gens qui ont capturé le héros et qui ne le rendent que si on leur verse 1 million de livres.
Spoiler alert, t'as raconté la fin de la pièce.
Non, pas du tout, justement, parce que là, justement, vous ne savez pas comment est-ce qu'on peut arriver. Et il y a des dialogues absolument délicieux où vous avez le méchant qui rassemble sa troupe de méchants et qui dit, alors qu'avez-vous fait de méchant aujourd'hui? Et il y en a un qui dit, j'ai roulé à plus de 80 km/h. Et l'autre lui dit, mais en quoi est-ce véritablement méchant? Et le type répond, dans une rue piétonne. Voilà. Ça, c'est le genre de choses que j'adore, parce que c'est véritablement du tournement. Et lui a fait une chose assez étonnante. Il a écrit un certain nombre de romans policiers qui se passent dans l'univers du conte. Qui a fracassé Humpty Dumpty, l'œuf qui est tombé en morceaux et qu'on essaie de reconstituer? Donc on a les preuves du crime. Maintenant, qui a pu commettre le meurtre, voyez, les trois petits ours et le porridge, qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière cette histoire? Et c'est toute une catégorie d'histoire. Il y a eu le film La véritable histoire du petit chaperon rouge, qui est arrivé de cette façon-là, où effectivement on voit la scène du petit chaperon rouge qu'on connaît, le petit chaperon rouge qui est dans la scène de dans la maison de la grand-mère, enfin le loup déguisé en grand-mère qui bondit pour la saisir, et le bûcheron qui fracasse la porte et qui se prépare à attaquer le loup. Et à ce moment-là, vous avez les voitures de police qui arrivent, qui disent stop, 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 ce n'est pas ce que vous croyez. et on découvre qu'en fait l'histoire est complètement différente de ce qu'on pense, et c'est véritablement un tour de force narratif. Et les gens jouent avec ça, les gens sont capables de s'amuser à ça, et Jasper Ford le fait avec ce travail merveilleux sur la littérature. Et il est tout le temps en train de jouer avec les codes de la littérature jusqu'à inventer un univers littéraire dans lequel il y a le puits des histoires perdues, oui. Des histoires trop mauvaises, celles qu'on n'a pas écrites, et l'auteur qui est tellement mauvais mais qui est publié à compte d'auteur que personne ne pense à lui en tant qu'auteur. Et alors donc évidemment dans ses livres se cachent des forces maléfiques absolument essentielles, et personne ne pense à lui en tant que livre parce qu'il est publié à compte d'auteur, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est extraordinaire.
Oui, le personnage qui, le méchant qui a trouvé le moyen de pénétrer dans les livres, il tue un personnage secondaire d'un des romans de Dickens qui s'appelle Martin Chuzzlewit. La police trouve un cadavre et finalement ils arrivent à l'identifier, et ils reçoivent un message du type qui leur dit: bon ben là j'ai tué un personnage secondaire, la prochaine fois je tue le personnage principal si vous ne me donnez pas 100 millions. Et il fait chanter comme ça, il pénètre dans le manuscrit d'un roman de
Jenner de
Charlotte Brontë, et il fait quelques dégâts.
Et le pire, c'est que le personnage qu'il a tué dans le personnage de Dickens, dans le bouquin de Dickens, existe réellement et disparaît à la page 324 du bouquin sans qu'on sache pourquoi, parce que Dickens écrivait des feuilletons, ouais. Il avait tout simplement oublié ce personnage qui a disparu. Et lui fournit la seule explication réelle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été tué ce personnage-là et arraché le cadavre, et que donc si on ne paye pas... Et là, vous avez des gens qui vacillent en disant: mais dans le fond, toutes les énigmes littéraires peuvent apparaître. Et c'est vraiment de cette façon-là que ça marche.
Mais c'est Woody Allen qui avait écrit Comment j'ai couché avec Madame Bovary pour... Oui.
Dieu, Shakespeare et moi. Dans
oui, Dieu, Shakespeare et moi. Hein.
Ah ouais.
Voilà.
Adieu.
Tu crois être sauvé, Pierre? Il reste encore 5 minutes et quand même, il faudrait que tu participes un peu.
Mais je me souviens, on pourrait peut-être demander à Fabrice Collin, parce que je crois qu'il avait fait un bouquin de... Ah oui. De fantasy où le héros se promenait avec la tête de sa femme de ménage sous le bras, donc ça doit pouvoir rentrer dans les cordes.
Ouais. Je s'en rappelle plus, hein.
Dans mon œuvre, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'éventuellement, il peut y avoir des personnages qui vont faire quelque chose de drôle, ou ils ont le droit, eux, d'avoir de l'humour. Mais le bouquin n'est pas humoristique. C'est pas l'ambition du tout du livre. Ou si c'est le résultat obtenu, c'est raté. Et je suis bien embêté.
Alors ça, c'est cruel, ouais. C'est quand on vient te voir, on dit: ah, trop drôle ton truc que t'as fait avec tes tripes et tout.
Il est con, ton mec, mais il est con.
Il y a l'inverse aussi. Ouais.
Mais c'est vrai, on aurait dû parler de la fantaisie humoristique, des bouquins qu'on trouve drôles, mais des gens qui l'ont pas écrit comme ça. Il y en a quand même.
Ça aurait été hyper cruel, parce que moi j'en vois 2-3, mais j'oserais pas le dire.
Ça, c'est hyper cruel, vous voyez.
Donc, nous vous remercions d'avoir participé à ce débat. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on va la fermer pendant une heure.
Voilà. On va laisser la place pour...
Pour des gens sérieux.
Pour des gens sérieux, il y a une remise des prix après. Voilà. Avec des vrais romans... non humoristique.
Mais en tout cas, il y a au moins une chose qu'a dit Catherine, elle a raison, c'est la... Enfin, c'est Catherine...
Non, c'est
pas du tout ce qu'avait dit Catherine, je suis désolé. Il n'y a pas besoin de le refaire. C'est que, effectivement, le fait qu'on puisse parodier est dû au fait que la fantasy est devenue tellement, tellement successful, a tellement de succès, qu'elle a créé ses propres territoires tellement cartographiés qu'on a l'habitude de s'y balader. Et ben, nous, on prend les routes secondaires, hein, c'est clair, et on s'amuse avec ça.
Voilà le mot de la fin.